Premier sur l'info, le journal
avec MCM.
Allez, c'est parti pour le journal. Vaïté Orari Pambrin, bonjour.
Yarana Amoreto, yarana à tous. Notre édition de ce matin sera surtout consacrée au volet politique. Ainsi, le conseil municipal de Mayork a profité de la visite du président du pays pour demander la mise en place d'un abri de survie, mais aussi la potabilisation de l'eau sur son île. La confection de bijoux en dents ou en vertèbres de requins formellement interdite, mais beaucoup d'artisans continuent d'en vendre. Vous entendrez les explications de la direction de l'environnement. La démission de Jean-Christophe Shigetomi, directeur de l'aviation civile, a été actée en Conseil des ministres et sera effective le 1er janvier prochain.
Alors, les élus de Mayhaut demandent l'installation de citernes en attendant l'eau potable.
La mise en place d'un osmoseur avait été lancée. Il a même été question d'étendre le contrat d'affermage de Mouréa avec la Polynésienne des eaux. Mais ces études n'en sont qu'à leur balbutiement. En attendant, les habitants de Mayhaut sont tributaires des pluies pour se fournir en eau, ce qui devient problématique en cas de sécheresse, comme l'explique Flora Marotou, conseillère municipale à Mayhaut, et elle est interviewée par Valentine Bluet.
Nous, on récupère de l'eau de la pluie, et si vraiment c'est vraiment la sécheresse chez nous, on demande des aides à la commune, et la commune met de l'eau sur le bateau, nous amène une citerne d'eau et dépose à la mairie, donc la population peut se servir cette eau pour tout, et avec des packs d'eau distribués pour les enfants.
Les habitants de Mayhaut ont donc demandé au pays la livraison de citernes d'eau de grande taille en attendant la mise en place du réseau d'eau potable.
C'est-à-dire qu'on va aider les familles à s'équiper du nécessaire, c'est-à-dire de citernes d'environ 7000 litres, de façon à ce qu'ils puissent s'assurer une certaine autonomie en fonction des pluies qui tomberont sur Mayhaut. Et surtout, nous aiderons la commune à s'équiper d'une quantité beaucoup plus importante en matière de stockage, mais surtout d'un système de traitement de cette eau de façon à ce que les populations aient quelque part une eau potable garantie. C'est le projet, bon, c'est ce que nous faisons aussi dans d'autres communes.
Edouard Fritsch espère que cela va être fait cette année. L'essentiel pour moi, c'est de démarrer, a-t-il affirmé.
Mayhaut souhaite également la mise en place d'un abri de survie.
En effet, en cas d'événement climatique majeur, les habitants de l'île interdite n'ont rien pour se protéger, à part le plateau situé dans la montagne, à 20 mètres au-dessus de la mer. Le souci est que le cofinancement de 15 abris de survie par le pays et l'État a disparu, car utilisé par d'autres services. Écoutez le président du pays, toujours au micro de Valentine Bluet.
Dans un abri de survie, vous avez vu au Tuamotu, il y a une infirmerie, des fois il y a une école, à Nio on a mis deux classes. Ailleurs, on a mis un bureau de poste, c'est le cas de Anna, je crois, et puis à Rutua. Donc on fait une clé de répartition en fonction de l'occupation permanente des sols de cet abri. Si moi j'en occupe 40%, l'État avec la commune, les services d'État 60%, donc c'est la clé de répartition des financements, mais surtout mieux. Et c'était le gros problème des abris de survie. On se répartit aussi les charges d'exploitation et les charges d'entretien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des abris de survie qu'on a dû descendre parce que l'état des murs était déplorable et posant des problèmes sérieux de sécurité. Donc on prévoit non seulement l'investissement là maintenant, mais on va aussi derrière prévoir l'entretien et l'exploitation de ces abris de survie.
Il a également évoqué la possibilité de solliciter le simili de fonds verts pour la Polynésie avec des emprunts à taux zéro.
La démission du directeur de l'aviation civile a été acceptée.
Et elle sera effective à compter du 1er janvier prochain. D'ici là, Luc Fatou, ministre des Transports, devra lui trouver un remplaçant. Et selon nos informations, trois candidats sont actuellement en lice. Le remplacement devrait être d'abord effectif par intérim avant une titularisation avec avis de la CCBF, la Commission de contrôle budgétaire et financier. La démission de Jean-Christophe Shigetomi avait été révélée le 6 novembre dernier par TNTV. Il se disait fatigué des conditions de travail insupportables et des conflits qui gangrènent le service de l'intérieur.
Les investisseurs d'Abu Dhabi ne se sont jamais positionnés sur nos appels à projets.
Gaston Flos, président du Tahrir, a annoncé mercredi sur TNTV qu'ils s'envolaient pour Abu Dhabi car invités par des investisseurs qui sont intéressés par le projet Mahana Beach. Et Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement, affirme qu'aucun investisseur des Émirats Arabes Unis ne s'est jusqu'ici positionné sur les appels à projets concernant le Mahana Beach ou l'actuel village tahitien. Il est au micro d'Antoine Samoyou.
Non, il n'y a jamais eu d'investisseurs arabes qui se soient positionnés sur les appels à projets qui ont été lancés par la Polynésie française. Je rappellerai aussi que les procédures appellent simplement à ce que nous respections notamment nos codes des marchés publics, les appels à projets, qu'on ne peut pas partir tout seul, choisir un seul investisseur qui va investir tout seul dans un projet qui, quelque part, est aussi un projet public qui intéresse toute la Polynésie.
Jean-Christophe Bouissou précise qu'il y a des procédures à suivre et qu'on ne peut tout confier à un seul investisseur, sinon on va encore tous se retrouver devant le juge d'instruction.
Sujet qui fâche, les bijoux en dents et vertèbres de requins sont interdits à la vente, mais il n'y a pas beaucoup de suivi à ce niveau, hélas.
Le code de l'environnement précise que la pêche de requins et la détention de tout ou partie de l'animal sont interdits, mais il faut savoir qu'outre la consommation de requins, la confection de bijoux avec des dents, des vertèbres sont tout aussi interdits. Ce type de bijoux est pourtant facile à trouver à Papeete. Les contrevenants courent tout de même 2 ans de prison ferme et 18 millions d'amende, mais comme le reconnaît Claude Serra de la direction de l'environnement, aucune sanction n'a jamais été appliquée depuis la mise en place de la réglementation en 2012.
À ma connaissance, pas encore, mais ça peut arriver. Les sanctions peuvent tomber, elles existent, mais pour l'instant, elles n'ont pas encore été appliquées. On va laisser aux gens peut-être le temps de prendre conscience de ça, mais de toute façon, le requin est un élément essentiel de l'équilibre des lagons. Si on commence à le massacrer, on va modifier l'équilibre des lagons.
Les artisans, ils sont au courant de la législation en cours.
En ce moment, il y a une communication qui est faite, hein, mais bon, les gens n'écoutent pas toujours.
Janine est artisan, elle vend des colliers en vertèbres de requins sans aucune discrétion. Elle affirme être au courant de la réglementation et donc de l'interdiction, mais continue à en vendre malgré tout.
On a su ça, je ne sais plus quand, quel mois il est venu, mais on a su qu'on n'a plus le droit de vendre les dents de requin.
Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ils ont dit qu'il faut enlever et puis il ne faut plus acheter des... Par exemple, ce n'est pas à nous, on achète aux pêcheurs, mais on a dit qu'il ne faut plus acheter et revendre.
Vous savez ce que vous risquez sinon?
Oui, il y a une amende, mais je ne sais plus, 17 millions. Ah non, il n'a pas dit pour l'amende, il a dit seulement que c'est interdit parce qu'il y aura des gens qui vont venir pour venir regarder et enlever.
Et là, tu continues à en vendre?
Oui, voilà, parce qu'il ne me reste que ça. C'est pour ça.
T'as pas peur?
Non. Ben, je sais pas, mais j'attends.
No comment. Toute cette semaine, Radio Haïtiaré FM décline une série consacrée à la rétrospective de l'année 2017.
Et parmi les événements qui ont marqué l'année sur le plan sociétal, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Tahiti et Moorea en début d'année, et notamment dans la nuit du 21 au 22 janvier, causant de lourds dégâts, les précisions d'Élodie Largenton.
Des maisons dévastées, des ponts emportés, des locaux inondés ou encore des entreprises détruites. Les intempéries de janvier et février ont entraîné d'importants dégâts matériels. La commune de Faa'a a été endeuillée le 17 février. Un employé municipal est décédé lors d'une intervention à Pourey. Après l'urgence, il a fallu penser à la reconstruction et au relogement des familles sinistrées. L'État et le pays ont versé des millions de francs, mais il reste encore du travail aujourd'hui. La saison des pluies a été intense et longue. Le 9 avril, une randonnée a mal tourné dans la vallée de la Papeno. Un groupe de 19 randonneurs s'est fait surprendre par une brusque montée des eaux. 3 personnes sont décédées. D'autres événements dramatiques sont survenus sur les routes polynésiennes. Depuis le début de l'année, 24 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route. La moitié d'entre elles étaient des usagers de deux roues. Plusieurs longs mouvements sociaux ont par ailleurs agité le secteur aérien notamment. Il y a eu d'abord une lourde grève des pompiers de l'aéroport de Tahiti Faa'a en mai, puis une grève des personnels navigants commerciaux USAFUNSA. ça d'Air France en novembre. Et enfin, le recensement nous a permis de savoir que nous sommes 276 000 habitants en Polynésie française.
Et d'ailleurs, les trois quarts de la population vivent dans les îles du Vent, à Tahiti et à Moorea.